Amis de Radio Silence, bonne rentrée. Je reprends là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire brutalement, après que une émission qui n'a pas plu aux dirigeants de cette antenne ait été censurée. En temps normal, ce sont des choses qui irritent énormément, mais puisque nous vivons une époque très contrariée, disons-le comme cela, on va laisser tomber. Et puis de toute façon, nous sommes les enfants ou les frères de Jésus, donc nous avons le devoir de pardonner et de ne pas laisser trop longtemps traîner les haines, les rancunes ou les déceptions entre nous. Et donc nous avons toujours comme cela cet amour fraternel qui nous lie et qui fait que, au-delà de ce qui nous oppose, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Donc voilà, je reprends la chronique et je le fais d'autant plus spontanément comme ça que je réagis à l'éditorial de notre ami Bernard Lugan de l'Afrique réelle. Beaucoup d'entre vous sont certainement abonnés à l'Afrique réelle et je suis heureuse d'avoir reçu une alerte, un signe de la part de Vermeling qui m'a donc porté cet éditorial à ma connaissance. Et je n'ai rien à dire hein, sur ce qui, comment dirais-je, ce qui unit plus qu'il ne désunit Monsieur Ali Bongo à Jean Ping, je sais d'ailleurs pas comment on prononce, c'est Ping ou Ping, qui se dispute la victoire aux élections présidentielles du Gabon. Bernard Lugan dit très bien les choses, que ce sont deux personnalités du système, et que vraiment ce serait un peu comme le choix entre la peste et le choléra. Qui est-ce qu'on devrait choisir? Honnêtement, c'est indécidable, surtout qu'en Afrique, on a une opposition qui est un peu, comment je dirais-je, qui a fait partie du système très souvent. Et qui a donc les mains aussi sales que qu'elle combat, et au fond qui souvent semble tout aussi, je veux dire, comme les dirigeants, il y a toujours une certaine suspicion d'être des agents de l'extérieur. Donc Monsieur Jean Ping, moi je dirais pas plus, il a été à l'Union africaine, l'un des mentors de l'Union africaine. L'Union africaine ne fait pas des étincelles, du tout, du tout. Au contraire, l'Afrique est là, elle n'a pas un projet bien défini, elle écrit beaucoup, elle planifie beaucoup, mais on ne voit pas trop la concrétisation de tout cela, parce qu'il manque un point focal, il manque un phare, où est-ce qu'on va exactement? Et il manque aussi la volonté politique aux dirigeants qui sont là plus pour rester, et moins, enfin pour durer, et moins pour réellement faire les choses. Donc l'Afrique, elle est parsemée comme cela, elle est parsemée, on va le dire. L'opposition n'est pas très crédible parce que quand elle arrive, elle n'a pas un projet qui soit vraiment foudroyant, si je peux le dire ainsi, ou plutôt qui parle au cœur des Africains de façon telle qu'on soit sûr que cela sera fait, d'autant que ce sont les mêmes personnes qui sont derrière et au final, ils vont être repris par le système par le haut, le système international, vous comprenez de quoi on parle, et qui le système des élites, le système de l'establishment, qui est d'ailleurs mis en cause très fortement en ce moment dans la campagne électorale américaine. Bon, voilà, Monsieur Trump, qui gagne justement parce que, quoi qu'on dise, lui, il a quelque part les mains moins souillées politiquement parlant que Madame Hillary, elle gagne parce qu'elle n'est pas dans cet establishment. Tout le monde en a marre de cet establishment. Et voilà, ça nous amène à la question qui fait en sorte que je réagisse aujourd'hui à cet éditorial. C'est la question de mettre tout, je vais dire, on fait comme si l'Afrique était le seul pays où les questions de démocratie se posaient fortement. Or, on sait très bien que dans l'Occident aujourd'hui, si M. Trump gagne, c'est justement parce que cette démocratie aussi est en panne ici et que ici, on a fait en sorte, on a maquillé le système, On a mis les partis politiques. Tout avait l'air d'être très démocratique, mais au fond, ça l'était pas du tout. Donc, on peut toujours dire que l'Afrique, les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie, ce que je condamne avec toute la force possible, parce que c'est faux. C'est faux quand Bernard Lugard essaie de le dire en disant qu'on a fait une greffe, genre la France serait venue avec toutes les bonnes intentions du monde, comme Monsieur Bush est allé en Irak avec toutes les bonnes intentions du monde pour imposer la démocratie, tout comme on connaît Madame Hillary et Obama, ils sont allés en Libye pour imposer la démocratie, n'est-ce pas? Comme ils veulent aller en Syrie, comme c'était en Afghanistan, comme cela a été un peu partout, où cette néocolonisation, ou plutôt ce néo-impérialisme repasse derrière, et quand il passe, vous vous en doutez très bien que ce n'est pas du tout pour établir la démocratie. Pardon. Donc quand on dit que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie, si on les laissait déjà libres de voter pour les dirigeants qu'ils veulent, si on leur infligeait pas comme ça, imposait comme ça des dirigeants, ça irait très bien. Il y a des observateurs qui sont là, qui assistent aux élections. Bon, c'est très bien qu'ils voient rien, ou plutôt ils ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. L'Afrique est-elle prête pour la démocratie? Ben oui, elle a toujours été depuis toujours. Ça, c'est une question qui me dépasse. Il n'y a pas de greffe de la démocratie en Afrique. La démocratie, quand même, nous sommes des gens qui avons une vie spirituelle, et même nous sommes des êtres humains. La démocratie procède de quoi au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le droit, sur la loi, sur l'histoire, sur la philosophie, sur Athènes, le siège de la démocratie? Non, c'est quelque chose qui procède de la justice. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui procède du bien et du mal. La conscience, voilà, la démocratie, c'est une question qui nous renvoie à la conscience, à nos consciences personnelles. La conscience qu'on a de ce que c'est que le bien et le mal, la conscience qu'on a de ce que c'est que le bon ou le mauvais, on n'a pas besoin de vous l'apprendre à l'école, hein. C'est un sentiment, c'est un sentiment, vous sentez tout de suite, et d'ailleurs, pourquoi Hillary Clinton est critiquée aux États-Unis, ou plutôt elle est jugée comme n'étant pas crédible, c'est que les Américains, qu'on soit pro-Hillary ou pas, on a conscience qu'elle a triché et passe. Cette conscience seule suffit à ce que elle soit décrédibilisée, même si on ne connaît pas l'issue des élections. Et puis, de toute façon, malgré cela, j'ai envie de dire, en dépit de cela, les gens s'en foutent tellement aujourd'hui en Occident, ils sont blasés que même si vous trichez, ils votent pour vous. Ils ne feront pas, comme en Afrique, des luttes pour cela, et on dira oui, vive la démocratie. C'est pareil, Hillary Clinton, si elle gagne, elle aura triché, elle aura gagné, on dira vive la démocratie. Je suis désolé, non. On ne peut donc pas faire un procès comme ça, anthropologique, je vais dire, moi j'appelle ça une sorte d'anthropomorphisme à l'envers, dans ce sens où on attribue aux Africains, vous savez, les Africains, n'est-ce pas, ils pourraient comme ça devenir des démocrates parce que la démocratie, ce serait occidentale. On ne peut pas di dire cela. Non, ce n'est pas acceptable. D'abord, c'est méprisant. Ça méprise les droits de l'homme. On est des hommes ou on n'est pas des droits de, ou on n'est pas des hommes, pardon. Et si on est des êtres humains, il y a un minimum que nous partageons ensemble en tant que citoyens et on n'a pas besoin de vous le dire. C'est l'inné. C'est l'inné et ça vous arrive spontanément, ça vous prend par les tripes spontanément. L'Afrique, elle lutte pourquoi plus que l'Occident qui est blasé et qui subit. Parce qu'en Occident aujourd'hui, c'est Clint Eastwood qui l'a dit très bien pendant la campagne, le peuple aujourd'hui est devenu faible, mou, parce que corrompu par tout l'environnement, je ne vais pas insister là-dessus, consumériste et jouissif, comment j'allais dire, épicurien, voilà. Alors on subit les choses, on accepte, on dit c'est la fatalité, oui, et puis on recouvre tout cela par un vernis d'une forme, on va dire, pratique la démocratie depuis tellement longtemps que voilà, on est les maîtres du monde en matière démocratique. Non, la génération est faible, elle réagit plus, et la génération est toute tournée vers l'érotisme. Donc, pareil, on a dit la génération Pussy, et c'est un film, une sorte de génération film pornographique, et une génération qui bouffe, qui consomme tout, la télé, la merde, et puis voilà. Voilà. En Afrique, nous en sommes à l'ère révolutionnaire, à l'équivalent ici de l'ère révolutionnaire. Donc là-bas, on lutte, là-bas, on brûle. C'est normal, parce que pendant longtemps, on a été étouffé. L'histoire de l'Occident pourrait très bien éclairer le processus de cette lutte, de cette guerre qui est bel et civile en Afrique aujourd'hui pour la liberté et la libération des peuples. Comment peut-on dire quand un peuple est justement au front en train de combattre pour ses droits? Je vais dire au Congo, ça va arriver. En Côte d'Ivoire, c'était arrivé. Au Tchad, ça a été longtemps des coups d'État. Au Nigeria, pareil, les coups d'État un peu partout. Bon, le Cameroun est un peu particulier parce que c'est un peu plus compliqué, mais il y a eu quand même une tentative de coup d'État avortée. Comment peut-on dire, sachant l'histoire de l'Occident et de la conquête et des luttes qu'il faut engager pour se libérer, et en Afrique, on ne se libère pas seulement du dirigeant africain, on se libère aussi de l'élite internationale qui y est très présente. Alors, comment peut-on dire que des gens qui luttent ainsi, qui détruisent, oui, l'Assemblée nationale, comme on a vu au Burkina Faso avant, et comme on vient de le voir au Gabon, comment peut-on dire que ces gens-là ne sont pas prêts pour la démocratie? Mon Dieu, écoutons-nous parler, quand même. Je vous dis à bientôt.